plainte en contre un criminel.
Je crois que dans la prison, il faut voir de plus en plus l'idée de protection de la société contre un criminel que l'idée de pénalisation. C'est donc aussi la maison des maladies chroniques. Dans le classique, ce sont les maladies fonctionnelles. Mais la douce, c'est les chroniques. Avec l'idée que là, le corps lui-même va servir à cette réclusion, à cette retraite qui est imposée par une maladie chronique et qui, de ce fait, si la douzième maison est bonne, va amener cette capacité de découvrir un monde intérieur insoupçonné. Voilà sur le plan physique, corporel, ce que peut être une douzième maison. Et il y a bien d'autres choses à dire là-dessus encore. Maintenant, c'est donc le monde sur le plan psychologique, sur le plan alors de l'intérieur de l'individu, c'est le monde des courants souterrains. Mais alors des courants souterrains de l'âme collective, l'âme d'une nation par exemple. Et c'est toujours avec l'idée d'unifier. C'est de partir d'une unité qui se donne à ses enfants et qui permet à ses enfants de venir à elle. C'est ce double mouvement, la douzième. C'est l'amour divin que nous sentons pour cet être et que cet être sent pour nous. Le rapport en douze n'est plus de l'homme avec l'homme, c'est fini. C'est fini en onze, ça. C'est l'homme avec Dieu et Dieu avec l'homme. C'est la douze. Voilà pourquoi l'ordre du Carmel, un ordre contemplatif, est essentiellement un ordre de la douzième maison. Et alors, tous les mouvements qui dépassent les mouvements sociaux qui sont inspirés par l'âme même de l'humanité, ont leur départ en douze. Alors, les forces, les courants souterrains ne sont pas maintenant ceux que l'on sentira dans la huitième, parce que ceux-là sont moins profonds, et puis leur direction est autre, ça va de l'homme à l'homme, ça. Mais dans la douze, non. Alors, les courants souterrains de la douze, quand ils viennent du divin, se répandent, et l'homme se sent inspiré de faire telle et telle chose sociale ou individuelle. Oui, mais il se sent inspiré, et ce ne sera pas le genre d'influence qui lui viendrait de sa huitième maison. Ce sera beaucoup plus profond et beaucoup plus haut. Alors, si vous pensez à vos planètes, et aux planètes, quelles qu'elles soient, qui sont placées dans votre douzième, dans ce cadre du poisson, même si vous avez le bélier pour le maître de douze, ou n'importe quel autre signe, il suffit maintenant, sans que j'aie à classer chaque planète, car je n'aurai pas le temps, j'aimerais parler encore de deux ou trois autres choses. Mais pensez à vos planètes dont vous savez déjà maintenant pas mal les significations, et placez-les en votre douzième. Et dites-vous, une planète-là, elle est locataire d'un maître, d'un propriétaire qui entend leur donner des courants d'air constants ou des courants d'eau constants qui viennent du ciel et qui doivent passer par elles et qui doivent les alimenter, les agiter, les stimuler, les nourrir surtout, et permettre à ces planètes, à leur tour, de travailler par cette nourriture dans les maisons dont elles ont à leur tour la maîtrise. Nous verrons tout à l'heure, c'est la classification que je veux faire maintenant, ce que peut faire une planète maître de 5, de 6, de 7 et ainsi de suite lorsqu'elle est en position natale en 12. Parce que je sens bien que la 12e maison pour la majorité des gens, c'est assez naturel. C'est la maison, comme la huitième, mais pour d'autres raisons, la moins comprise et la moins vraiment vécue. Et en effet, Nos vies ne sont pas des vies de contemplatifs. Et même l'astrologue n'a pas nécessairement un thème de contemplatif. Je dirais presque que c'est à regretter. Il faut bien qu'il y arrive un jour, mais enfin, souvent, il ne l'a pas. Et quand il ne l'a pas, il lui est assez difficile de se rendre compte vraiment de ce que peut valoir la 12e maison pour les humains. Je finis ceci maintenant par un petit diagramme final, et c'est le diagramme du triangle équilatéral. Et vous rappelez que je l'ai fait sur la part de fortune, je l'ai fait précédemment, lorsque je mettais le soleil ici et la lune là, voilà le tout, voilà la part, voilà le reste, soleil pour la part, lune pour le reste, vous savez ça, mais maintenant nous changeons. Et nous prenons entièrement ceci, le domaine d'Uranus-Neptune, c'est le domaine de l'âme collective dont votre âme est une partie. Et alors le jeu maintenant se fait sur un échiquier beaucoup plus vaste que simplement votre vie par rapport à d'autres petites vies. C'est le jeu maintenant entre l'univers et vous. Et vous et l'univers, et le dialogue se fait ainsi. Alors ici maintenant, c'est représenté dans le triangle équilatéral par Uranus qui est la part, Neptune qui est le reste. Neptune, c'est la lune, Uranus. Elle représente l'espace vital qu'il doit encore remplir, et il l'invite à le remplir, il le lui donne. Et alors on dira, Uranus, c'est le fils de Dieu, et Neptune, c'est la mère divine. Dans notre christianisme, c'est la Sainte Vierge. C'est Neptune qui est la Sainte Vierge, et son fils, qu'elle porte dans ses bras, alors, ici, c'est Uranus, qui grandit par ses soins dans son cadre, comme notre soleil grandit dans le cadre que lui offre la lune, sa lune. Il y a le même rapport, en principe, entre lune, soleil, Neptune, Uranus. Seulement, lune, soleil, c'est dans le monde intérieur, ici, de la petite croix, de cette petite aime. Mais Uranus, Neptune, nous sommes vraiment en ce moment-ci devant les drames mythologiques qu'a chanté la grande mythologie, les drames de l'âme collective de l'humanité. Alors maintenant, si je prends les planètes, lorsque le maître de 12 est en 1, vous porterez, alors vous voyez maintenant la méthode d'interprétation d'un thème, cette méthode d'interprétation que vous avez constatée mais très coutumière, pour moi elle est fondamentale, consiste, cherche à savoir où se trouve le maître d'une maison. S'il n'est pas dans la maison dont il a la maîtrise, dans quelle maison se trouve-t-il? Première considération. Car cette position dans cette maison où il se trouve va être le déterminateur fondamental de la qualité de la maison dont il a la maîtrise. Le second déterminateur, bien entendu, va être non seulement son élément, mais ça va être ses aspects. Je dirais ses aspects même avant son élément. Mais la maison où il se trouve, dans le dispositif, la structure totale de l'être, cette maison va être capitale. Parce que c'est dans cette maison qu'il va trouver l'aliment, le stimulant, la tonalité, la résonance qu'il va apporter à la maison dont il est le propriétaire. Et donc, vous avez le maître de 12 en 1. Forcément, c'est votre propre ego. C'est vous à l'aube des jours, à l'aube de vous-même, à chaque fois que vous reprenez l'aube d'une chose, l'aube de la conscience. C'est dans l'aube, la qualité d'aube de votre conscience, que vous allez trouver la nourriture de votre monde intérieur, votre monde intime. On pourra donc dire que votre âme, votre monde intérieur, le 12e, vous la portez sur votre manchette. Car vous la montrez tout le temps, puisque la planète est en 1. Les planètes de première maison, locataires de première maison, on ne peut pas les cacher. On peut cacher les planètes de la Lune. Oh, certainement, elles sont d'ailleurs en paravent. C'est-à-dire qu'elles sont à un autre niveau dans l'escalier du thème. Mais, elles sont cachées. Mais en un, elles se montrent toutes. Il ne faut pas longtemps pour découvrir qu'elles sont là. Alors, si le maître de 12 est en un, vous comprenez, vous montrez ce que vous sentez dans votre âme. Ce qui se passe dans votre âme. Il n'y a pas beaucoup de vie secrète pour vous si la planète maîtresse de 12 se trouve en 1. Il y a de la vie secrète pour vous, mais je veux dire qu'elle est assez facilement révélée à ceux qui savent voir, et même à ceux qui ne savent pas très bien voir, et ça se manifeste bien aussi. Quand le maître de 12 se trouve en 2, attention maintenant, ça peut être assez sérieux. Si le maître de 12 est en 2, alors les considérations d'ordre pratique, les considérations d'ordre concret, des choses solides, des choses qui, sur lesquelles on peut dépendre, mais qu'on peut voir et qu'on peut manier, le taureau, donc des considérations vulgairement dites matérielles, des considérations d'argent, comme symbole de ces choses-là. Donc, alors on dira qu'on aura son âme dans sa fortune, on aura son âme dans sa chair, dans le monde concret, on aura son âme là où on a son avoir. Alors on pourrait dire peut-être que c'est le thème d'Harpagon, ça, le grand avare de Molière. Alors il harpait les choses, oui, et son âme étant absolument asservie à l'argent. On pourrait dire que le maître de la 12, très affligé, alors, se trouve dans sa 2. Il ne suffirait pas, il ne faut pas dire que simplement de l'avoir en 2, ça signifie ça. Non, ce serait de la pure folie. Pure folie. Mais de l'avoir en 2, surveillez très bien les aspects qu'il a sur cette planète. Et comprenez que, forcément, la deuxième maison va jouer énormément sur cette vie intérieure à vous. Si le maître de la 12 est en 3, eh bien les facultés de la troisième maison, maison mutable, maison carrée de la 10, l'ascendant de la 3 mutable, le jeu, le train de vos pensées concrètes, les exercices que vous faites avec, de cogitation que vous faites avec votre cerveau, vont avoir une façon de nuancer tout le temps la vie de votre douzième. Donc, votre douzième ne trouvera pas beaucoup de tranquillité s'il n'y a pas au moins une bonne lente planète qui s'y trouve comme locataire pour calmer les choses, c'est moins un Saturne. Si le maître de 12 est en 3 et que vous avez une troisième agitée par son propre maître, et que cette planète qui est maître de 12 se trouvant en 3 soit elle-même en carré ou en opposition à quelque chose d'autre, alors si vous avez Saturne en 12 et dans le signe de la 12e, soyez tranquille, vous allez avoir une chance là de quand même trouver une encre dans votre vie intérieure qui ne sera pas une encre confortable, qui ne sera pas facile, mais ce sera quand même un point d'appui, un accrochage au monde du divin. Si le maître de 10, de 12 est en 4, il est donc dans une maison qui fait trigone à la 12. Or, les trigones sont des signes, des aspects d'amour. Une planète en trigone à l'autre veut dire qu'elle l'aime. Les trigones sont vénusiens. Mon vénusien, c'est l'écoulement tout naturel et sans résistance de la vérité d'un être dans la vérité de l'autre, sous la direction générale de la vérité une, auquel elles participent tous et dont elles sont les instruments, les touches, si vous voulez, les cordes, si vous voulez. Et alors, vous avez là un accord entre 12 et 4, une planète maîtresse de 12 en 4. Ça veut dire que votre, la vie de votre âme, vous la trouvez dans votre foyer. Et le maître de la douce se trouve en quatre. La vie de votre âme va dépendre beaucoup de la vie de votre foyer. Si le maître de la douce se trouve en cinq, alors la vie de votre âme va beaucoup dépendre de la vie de votre cœur et de la façon dont vous brillez et de la façon dans laquelle vous vous épancherez. Car la cinq, c'est certainement une maison sortante de soi où l'on veut dire au monde qu'on est un peu là. Par contre, si vous prenez le maître de 5 et vous le mettez en 12, alors la vie n'a quelle différence de mettre le maître de 5 en 12 plutôt que de l'avoir en 1. Car si le maître de 5 est en 1, eh bien, quel accord il y a entre ces deux qui sont déjà en trigone naturel. L'ego et la cinquième maison, ça ne fait qu'une seule pièce. Je suis et je me donne et je mélange. Et je me réponds, et je brille. Cinquième, ben ça va. C'est tout temps. Il n'y a presque pas de décalage de temps entre la conscience de l'ego et la conscience de la cinquième maison. Presque pas de décalage de temps. C'est ça la grandeur d'un trigone. Il n'y a pas de décalage de temps. C'est une opération par unité de temps. Dans le carré, il y a un décalage du temps. Une opération de conscience, en état de conscience, n'amène pas nécessairement tout de suite l'autre. Ah mais non, c'est le carré. Nous sommes à deux temps. Et il faut passer d'un temps, d'un niveau à un autre dans le carré. Voilà pourquoi dans le carré, il y a le tiraillement. Et puis il y a un moment de suspension de toute opération, puis on repart sur l'autre plan. Alors, si le maître de 5 est en 12, bien alors, c'est cette vie, c'est la qualité de la vie de votre âme qui va se donner, qui va animer votre cinquième maison. Et vous aurez votre cœur dans votre âme, et vous aurez dans votre âme ce que vous aimez. Comme si vous avez le maître de 7 en 12. Peu de fois j'ai vu dans des thèmes un maître de 7 en 12. Donc, il n'y avait pas autrement de planète en 7 pour modifier le sujet. Le maître de 7 en 12, c'est très subtil, car nous savons que si le maître de 7 est en 1, c'est que votre partenaire doit se mouler sur votre personnalité. Et qu'il s'y moule, en effet, ou alors il n'est pas votre partenaire, c'est tout simple. Mais il se moule automatiquement sur votre personnalité. Vous êtes le gant dans lequel il met sa main. Tandis que si le maître de 1 est en 7, c'est vous qui êtes la main et c'est lui qui est le gant. Et vous vous moulez à ce gant. Ce n'est pas le gant qui se moule à la main. Ou non. C'est formel, ça. Mais si le maître de 7 est en 12, votre partenaire, il est dans votre âme. C'est beaucoup plus subtil. Parce que la 12e maison est infinie. Plus grande que la première maison. Parce que le bras de la croix, le champ de la 12e maison, comme de la 11, c'est beaucoup plus grand que le champ de la première. La première, mais c'est un iceberg, c'est la pointe qui sort de l'eau. La 12e, c'est les 12 parties de l'iceberg qui sont cachées sous l'eau. Alors, avoir le maître de 7 ans en 12, vous avez une patience, hein? Fini avec votre partenaire. Vous pouvez souffrir de votre partenaire, mais vous avez une sorte d'étrange compassion pour lui. Parce qu'il est dans votre âme et pas dans votre ego. Votre ego voudrait l'envoyer le promener. Voudrait le rosser, peut-être. Lui dire un tas de sottises. Divorcer. Mais il est en douce. Et alors il fait partie de cet hôpital intérieur de votre être. Il est soigné dans votre âme, le maître de 7 en 12. Le maître de 12, mais voyons maintenant, il ne faut pas qui m'a parlé du mètre de 6, de 7, de 12 en 7. Ah, pour faire le pendant. Ah oui, évidemment, le mètre de 12 en 7. Oh, je ne vous garantis pas que ce soir, parce qu'il faudra quand même nous arrêter d'ici 10 minutes, 15 minutes au maximum, de pouvoir faire la classification complète. Il me semble qu'avec, puisque vous êtes tellement assidu déjà à ces conférences, il me semble que vos connaissances, votre propre logique, votre connaissance de ces éléments, de ces maisons, de leurs fonctions psychologiques et extérieures également, dans le monde extérieur, doit vous donner déjà très nettement le sens des planètes dans une autre maison. Bref, le maître de la 12 en 7, vous avez placé votre âme entre les mains de votre partenaire. Quand le maître de la 7 est en 12, votre partenaire se place à la merci de votre âme. Mais quand le maître de la 12 est en 7, vous avez mis votre âme entre les mains de votre partenaire. Et alors, quelle sorte de torture va avoir votre âme si ce maître de 7 est affligé? Je veux dire, si la planète maître de 12 se trouve en 7, il se trouve très affligé. Alors, ce sont pas seulement toutes les difficultés de la vie conjugale ou d'association, c'est toute la sainteté d'association qui est chambardée, qui est mise à l'épreuve constamment, mais alors aussi c'est la vie intérieure, personnelle, la plus intime de vous. C'est comme si la porte du ciel vous était fermée en même temps. Alors vous étouffez aux deux extrémités. Butez d'une part, vous n'avez pas même la chance de reculer, car les gens qui ont une très bonne 12e maison ont une retraite perpétuelle. C'est comme la Russie. Devant Hitler ou Napoléon, les Russes n'avaient qu'à reculer, ils avaient toujours de la place. Toujours de la place. Eh bien, une magnifique 12e maison, on a toujours de la place. Alors, ça ne va pas sur le premier plan, eh bien, on va sur le second. Ça ne va pas sur le deuxième, le troisième, eh bien, on entra dans la 5e et le 6e plan. Et il y a tout d'un coup un plan où personne, aucun adversaire ne peut vous suivre. Là, vous êtes seul. Et là, à ce moment-là, vous bénissez votre solitude. Parce qu'il y a quelque chose derrière et au fond de cette solitude qui entre en jeu à son tour. Et alors c'est un tout autre thème et c'est un renversement total des directions de la croix, car au lieu de fonctionner entièrement dans un monde expansif extérieur, il devient impensif intérieur. Il rentre de plus en plus dans une intensité subtile. Le maître de la 12 en 6. Eh bien, alors là, de nouveau, nous sommes dans le régime de la croix de mutation, et vous allez servir pour le salut de votre âme. Car c'est la 6e maison, c'est servir, c'est travailler pour les autres et pour soi, mais c'est par ce travail-là que vous serez conscient de ce que peut être la vie de votre 12e maison. Si c'est en celle que le maître de la 12 se trouve, il faudra que vous vous donniez. Mais alors, il faudrait que vous ayez une certaine joie, parce qu'il n'y a pas de 5e maison sans joie. La 5e maison, c'est la joie de vie. C'est la joie, dans son meilleur sens. C'est la joie, c'est le rayonnement, c'est le soleil personnel, c'est son brillant, c'est sa chaleur, c'est même sa simple lumière. Mais s'il est en 6, c'est autre chose. Nous sommes maintenant de nouveau dans le conditionnement de l'humain. Nous entrons maintenant dans la préparation d'un nouveau monde qui est la 7. C'est l'entraînement, la 6e. Alors on s'entraîne par la 6 et cet entraînement nourrit notre âme. Il n'y a rien de difficile, de dur à avoir le maître de 12 en 6. Non du tout. le maître, alors attention, le maître de 12 en 8, il a de nouveau un accord entre 8 et 12, seulement attention, nous sommes maintenant dans les grands signes d'eau, même si c'est des signes de terre ou de feu, c'est essentiellement la valeur des signes de l'inconscient collectif et individuel. Alors si le maître de 12 se trouve en 8, c'est par votre héritage spirituel, huitième maison. L'héritage spirituel, vous entendez bien l'héritage humain spirituel. L'héritage de la douzième maison vient directement de Dieu, mais l'héritage de la huitième vient des hommes morts ou vivants, mais il vient de ce monde-là. Et il a des qualités peut-être merveilleuses, mais toujours il aura ce caractère quand même d'homme à homme. Mais la douzième, c'est homme à Dieu. Alors mettre le maître de 12 en 8, c'est subordonner la vie la plus religieuse de l'individu à sa vie psychique générale, à son héritage du passé. Et c'est subordonner aussi à ce qu'il peut hériter physiquement. Par ses associations, par ses contrats. Alors, s'il a une très mauvaise huitième maison sur le plan physique, eh bien, il aura des difficultés. Alors, il l'aura probablement sur le plan psychique, et il aura des difficultés avec sa douzième maison. Ah, ça peut alors amener des complications psychologiques assez grandes. C'est la douzième maison astrologique. Cette douzième maison, je crois qu'il faut aller m'asseoir parce que je ne vois pas très bien mes notes à cette distance, à cette lumière. Cette douzième maison, la douzième maison, nous le savons tous, pensez tous à votre douzième. Pour commencer, ceux d'entre vous qui ont votre thème. Pensez à votre douzième maison et si vous me dites, mais je n'ai pas de planète là, alors à quoi ça me sert d'y penser? Eh bien, dites-vous bien que le maître de 12, ça suffit, qu'il est, il est celui qui téléphone là, n'est-ce pas? Et alors, il s'agit de savoir dans quelle autre maison et dans quel signe et dans quels aspects il se trouve dans votre thème pour savoir exactement la signification de votre douzième maison. Bien entendu. Quand on voit dans un thème un groupe de planètes, on appelle un amas de planètes, quatre disons, dans la douzième maison, on sait tout de suite que cette personne est pour le moins avec une grande tendance à l'introversion. On sait que la vie sortante, la vie active, la vie débordante, et surtout l'affirmation du moi sur les autres, la vie possessive par excellence, n'est pas vraiment ce qui caractérise cette personne. C'est une vie rentrée. C'est une vie dont l'action sortante dépendra beaucoup de ce qui s'est travaillé dans les courants souterrains de cette âme. Car en somme, les planètes en 12 puisent dans les forces, la qualité de la vie intérieure propre à l'individu, et au monde spirituel auquel cet individu est lié par son âme, car nous ne sommes pas liés au monde spirituel par le moi, ou par le thème direct, nous sommes liés par notre âme. C'est l'âme en nous qui est notre dos, et notre face, ce sont les planètes d'action directe. Donc, la douzième maison, c'est vraiment une échelle de Jacob qui relie l'âme individuelle, non pas le moi, mais l'âme individuelle à l'âme collective, à l'âme groupe auquel son âme appartient et qui appartient à son âme. Et par la voie hiérarchique de l'âme groupe, à l'âme universelle, c'est-à-dire, et d'abord, à l'âme même de notre terre. Pour comprendre pourquoi la douzième est ce qu'elle est dans nos vies, la tendance de la tradition astrologique littéraire a été de regarder la douzième maison comme une maison d'épreuves, de grosses épreuves, d'épreuves chroniques même. Et certes, la douzième maison peut être ça, et certes, elle doit être ça, puisqu'elle peut être ça. Mais elle n'est pas que ça, et elle est beaucoup plus bonne qu'elle n'est mauvaise. Dans les personnes qui sont évoluées, la douzième maison, surtout lorsqu'elle a un groupe de planètes, indique très nettement le caractère de ce stade d'évolution. Car en somme, c'est la maison de la mysticité. C'est la maison de la contemplation. C'est la maison de la vie intérieure. Intérieur du moi par son âme avec l'âme divine. Les poissons, c'est la dixième maison de la croix mutable. C'est le zénith de la croix mutable, de la croix des mutations de l'espèce. C'est donc la volonté du ciel cette fois-ci, mais alors c'est le ciel de Dieu même. C'est la volonté de Dieu qui est au fond même de la douzième maison, dans les tréfonds, par-delà ces frontières usuelles de la conscience et de l'inconscient individuel de l'individu. Et au-delà de ça, c'est le monde direct du divin. C'est la grande maison de la compassion universelle, de l'amour universel, spontanément universel, puisque c'est la maison dans laquelle Vénus est exaltée, c'est-à-dire qu'elle achève sa course, et que deux est le multiple, plutôt, pas deux maintenant, mais le multiple est devenu l'un. C'est dans la douzième maison que la multiplicité devient, se rallie à l'unité, sous l'obédience et sous la substance du tout lui-même, de l'un suprême. Voilà pourquoi c'est la maison de la mystique, et voilà pourquoi c'est la maison de l'âme, et voilà pourquoi c'est la maison de la vie intérieure. Non pas la vie privée, car la vie privée c'est la quatrième maison. C'est une vie dans laquelle on se parle à soi-même beaucoup, la vie privée. On l'appelle privée parce qu'on ne la raconte pas aux autres, ou on choisit ses auditeurs. Mais la maison 12, c'est une maison dans laquelle on écoute beaucoup plus qu'on ne parle. Et on écoute quelque chose qui vient d'un autre monde. Lorsque vous êtes dans une cathédrale et que vous êtes saisi par les orgues, ou par les chœurs, ou par la liturgie, lorsque vous êtes dans un grand spectacle de nature et que vous sentez votre petitesse et en même temps cette bonté universelle qui transcende tout et qui, ayant laquelle vous êtes inséré, à ce moment-là, vous êtes dans votre douzième maison et vous ne parlez pas. C'est vraiment votre vie secrète qui s'ouvre à vous. C'est d'ailleurs la maison de Neptune. Et Neptune, c'est la rivière qui sort de la cité de Dieu. C'est cette ligne verticale qui sort du cercle et qui descend à la terre. Oui, la dixième maison de la croix mutable, c'est les poissons. C'est le zénith de ça. Ça a la valeur d'une dixième maison. J'ai fait ça au tableau noir ainsi. Vous avez la 10 ici de la croix mutable. Vous avez les Gémeaux ici, le Sagittaire ici, et au pied de la croix mutable, vous avez la Vierge. J'ai discuté ça lorsque j'ai présenté ça, lorsque j'ai parlé de la sixième maison. Je n'y reviens pas autrement maintenant. Et alors, ici, nous avons la dixième maison de la croix fixe, qui est donc Uranus, 10, Verseau, Vénus, Taureau et Mars, Scorpion. Alors, ceci, ça représente naturellement l'ascendant, la septième. Et la quatrième, c'est notre petit soleil. Notre petit soleil, dans notre thème, c'est le pied de la croix d'Uranus. Donc, Uranus est maître de sa dixième. Et alors, nous avons les signes fixes, là, les signes mutables. Et dans les signes cardinaux, que vous connaissez tous, nous voyons que l'individu, il s'insère dans le monde, à la cardinale. Puis, en s'insérant dans le monde, dans la fixe, il se trouve, il se découvre, il se trouve, il arrive à se parler à lui-même. Et voilà pourquoi les signes fixes ont ce caractère de fixité, parce qu'après tout, il faut toujours passer par soi-même, en allant et en revenant. On sort de soi, mais on rentre en soi. On rentre en soi et on va en profondeur de soi, on revient des profondeurs de soi à soi, puis on ressort de soi hors de soi, mais toujours le pivot, l'axe central, c'est la croix fixe. Et la mutable, alors, c'est la croix des mutations, c'est qu'on a passé, alors cette fois-ci, on a trouvé l'homme dans la croix fixe. L'homme dans les hommes. On s'est inséré par la cardinale dans le monde. On a trouvé soi et l'homme, donc, l'identité fondamentale de toute l'espèce humaine. Et alors, finalement, dans la croix mutable, on trouve Dieu. C'est-à-dire le rapport de l'homme à Dieu, de Dieu à l'homme, puis de la fixe à la cardinale, le rapport de l'homme aux hommes. C'est donc la descente de la croix, c'est-à-dire le passage de l'unité à la multiplicité. Et le retour de la multiplicité à l'unité. De sorte que le bélier, la première maison, représente un redépart d'un cycle d'incarnation, un cycle d'expérience, bâti sur la qualité du cycle précédent, dont le point culminant est la douzième maison du thème. Il y a tellement de choses à dire sur toute cette structure des maisons que j'en passe. Et j'en passe faute de temps. Il faut quand même que je reste, que je finisse sur quelque chose de très pratique et de très immédiatement utile. Vous avez tous une douzième maison et vous cherchez toujours à la mieux comprendre. Et peut-être vous ne la comprenez pas du tout. Alors si ce soir je puis arriver à vous aider à y comprendre davantage, ce sera l'essentiel. Mais il me faut bien, pour la bonne méthode, que je vous donne quelques idées sur la signification réelle, la signification de la douzième maison, sa signification archétypique, sa signification prototypique, sa signification de la théorie même, de la loi du zodiaque, la loi de la progression de la vie. Alors, j'ai fait ici ce dessin qui vous intrigue beaucoup. Et ceux d'entre vous qui ont suivi les conférences que j'ai données depuis une année à Paris n'auront pas de peine à suivre la présentation de ce fameux carré. Pour les autres, ce sera ou du charabia ou une révélation. Soit l'un, soit l'autre. Et si c'est une révélation, ça prendra un certain temps pour que vous vous y adaptiez, parce qu'il m'a fallu 10 ans pour trouver ça. Alors, je vous le donne de nouveau ce soir, comme je le comprends. Vous avez ce grand carré. Vous remarquez, cette pointe est au centre de la base du carré. Et j'ai marqué le signe de Pluton, P, ici dessous, à cette pointe. Et là, il y a un tout petit cercle, qui n'est qu'un point géométrique.
Puis nous avons ce triangle équilatéral, ou presque non, il ne l'est pas exactement. Nous avons ce triangle qui monte là-haut, et là-haut, vous voyez que vous avez une croix dans le cercle, c'est-à-dire c'est votre thème. Ceci, mes chers amis, dans cette présentation, c'est votre thème dans le tout qui est Neptune. Car Neptune, c'est un tout et dont vous êtes une partie. C'est comme ça qu'il faut comprendre le rapport de Neptune dans votre thème avec les planètes de votre thème. Car si les planètes de votre thème vous lient beaucoup plus organiquement aux choses de ce monde, Neptune vous lie aux choses de l'autre monde, du monde qui est celui de la rivière qui vient de la cité de Dieu et qui anime toutes les choses de ce monde en nous-mêmes, qui anime toutes nos petites planètes, par quoi nous entrons dans l'incarnation tous les jours à l'aurore, où tous les jours nous recommençons une nouvelle première maison et où nous attaquons le monde. Alors, votre thème, c'est la partie d'un tout. Vous êtes, vous, individuellement, la partie d'un tout. Et quand vous parlez de Dieu, quand l'instinct religieux dans l'homme lui fait dire qu'il y a un Dieu, c'est la reconnaissance qu'il est lui-même qu'une partie de quelque chose de beaucoup plus grand que lui, qui est le tout dont il fait la partie. Et d'autres êtres font partie de ce tout. Voilà pourquoi nous avons la raison d'être de la balance et du scorpion. Ceux qui ont suivi ces deux conférences vont suivre ça admirablement bien. Alors, voici vous, dans le Neptune, vous comprenez, le Neptune suprême, l'unité totale. Le Neptune, alors, lui, exalté dans le Sagittaire. Il a fini sa tâche. Le retour dans le sein de Dieu est accompli. Puis, ici, vous avez un autre Neptune, Neptune avec votre thème, puis ici un autre Neptune plus petit avec votre thème, et ici vous n'avez que le commencement de votre thème, le départ de votre thème. Ceci c'est une sorte de genèse de votre thème. Du moment que votre thème humain a commencé en tant qu'être humain, vous êtes sorti du règne animal qui est représenté ici par ces flèches qui font pression sur ces côtés du triangle. Alors ce règne-là, c'est le règne animal, c'est le règne inférieur au vôtre, c'est en somme le règne qui couvrait tout ce carré, toute cette étendue, tout cet espace, pardon, ou enfin tout ce domaine. Et alors il y a la flèche de la parole de Dieu qui descend avec toute cette flèche ici et qui va s'insérer dans ce domaine. Et là, le travail... Et il se fait une conversion de ceci en ceci, car plus vous montez, quand vous en êtes que là, vous avez surtout ceci et ça, et vous n'avez qu'un tout petit bout du centre de ceci. C'est le domaine du monde humain et du monde transhumain, et du monde spirituel. Mais à mesure que vous êtes monté, quand vous êtes arrivé là, vous êtes dans ce Neptune, et vous faites partie de ce tout-là, et votre partie de ce tout-là. Honore ce tout et ce tout vous honore. Dites-moi quel est votre Neptune et je vous dirai qui vous êtes. Ou dites-moi qui vous êtes et je vous dirai qui est votre Neptune. Alors là, vous avez un Neptune plus grand, vous êtes déjà là, et par conséquent, ce qui reste en vous du monde à proprement parler animal n'est que ceci. Alors que le monde humain et transhumain, c'est déjà tout ça. Et c'est ainsi que graduellement, nous convertissons un domaine en un autre. Et la raison de l'incarnation n'est pas autre chose que le sang versé de l'agneau, le morcellement du pain, c'est la multiplication, la descente, ce n'est pas autre chose que le besoin qu'a un univers d'être converti par un autre. Un ordre qui est celui-ci, converti par un ordre plus grand. Tout ça, c'est le cadre de la mutation perpétuelle de tout le monde manifesté. Quand vous êtes incarné, vous êtes reparti dans un cadre pareil, où il s'agit maintenant de convertir toute l'énergie qui est là, qui est analogiquement lié à vous, mais dont vous disposez des moyens de l'assimiler, par conséquent, de la transformer. Ce grand mot de la théologie chrétienne, la transsubstantiation. Voilà, nous sommes en train de vivre, chacun de nous, la transsubstantiation des valeurs. Et tant qu'il faudra transsubstantier un certain monde, un certain domaine, nous reviendrons le faire comme soldats, comme émissaires, comme envoyés du monde supérieur. Car si nous sommes ici dans l'incarnation corporelle, c'est que nous sommes ici trempant dans quelque chose pour que ce quelque chose, pas seulement nous, mais que ce quelque chose lui-même soit transformé par notre présence, puisque nous sommes le dernier terme, en quelque sorte, d'une tuyauterie, passez-moi le mot, d'une tuyauterie spirituelle dont le dernier aboutissant, le dernier jet, arrosant la terre, arrosant ce qui l'entoure, c'est nous-mêmes. C'est encore là un des sens de la bouche, et un des sens de la parole, et un des sens du verbe. Alors, vous voyez que vous avez ici, voyez Neptune, voyez le poisson, le signe du poisson, n'est-ce pas? Ce signe du poisson, je crois que vous le verrez tous ici, je vais le faire là. Le signe du poisson, c'est un petit cercle, et puis c'est un grand cercle. Et ils sont, mais l'un est plus petit que l'autre. Normalement, nous les faisons égaux et ils sont liés. Mais ils ne sont qu'un schéma pour rappeler ce qu'est véritablement l'opération, le drame en jeu, l'enjeu. L'enjeu du signe, l'enjeu de la maison. En réalité, ce cercle est plus petit que l'autre. Et il s'agit de les accorder. Autrement dit, c'est un grand tout, c'est un petit tout. Il s'agit que le petit et le grand soient unis. Et que ceci devienne cela. Et alors, il y a la descente du grand et la montée du petit. Alors, pour passer d'un tout qui est là, et qui est représenté par un cercle dans lequel se trouvera le carré, car un cercle ne peut être fait que à travers un carré. Alors, quand le cercle entoure le carré, nous avons le principe vénusien, nous avons le principe neptunien. C'est le tout. C'est toujours un tout, un cercle. Mais alors, pour passer à un cercle plus grand, il faut de nouveau se soumettre à la loi de la croix, c'est-à-dire au carré, et il faut que ce cercle passe par un carré plus grand, pour finir par entourer ce carré plus grand, par conséquent, le carré sera là et le cercle sera beaucoup plus grand. Alors nous avons ici Neptune, Uranus, Neptune. Neptune, Uranus, Neptune, Uranus, Neptune. Car dans votre thème, votre Uranus, c'est votre ancien Neptune, et votre Neptune, c'est votre futur Uranus. Et le travail d'Uranus, c'est un travail fixe et déterminé. C'est le programme déterminé de la vie. Il est dans un cadre, il porte le chemin de croix qui va le mener lui-même à votre Neptune. Voilà pourquoi dans les thèmes des gens qui sont nés autour de 1900, lorsque Uranus est en opposition, lorsque Uranus est en opposition à Neptune, dans les thèmes, vous avez ce grand moment où lorsqu'Uranus vient à Neptune, vous avez comme une sorte de préavis ou de prémisse de ce que peut être l'Uranus devenant le Neptune. C'est un grand tournant dans les profondeurs de l'âme de l'individu. Et il s'agit de bien comprendre que le symbole d'Uranus, n'est-ce pas, c'est la croix et le cercle. Oui, oui, oui. Mais ça, c'est un schéma primitif. La réalité de ça, c'est une petite croix, cercle ici, c'est un grand cercle là, c'est le carré, ceci, cette croix qui est là, c'est le carré sur le cercle, et le voilà ce carré, et le cercle est à l'intérieur. Car Mars, c'est la même chose, Mars, c'est le carré et le cercle à l'intérieur. Et Vénus, c'est le carré, mais le cercle à l'extérieur. Et alors, Uranus comme ça, le véritable Uranus, le voilà. c'est un carré qui est ici. Neptune a son carré à l'intérieur du cercle. Ici, le cercle est à l'intérieur du carré. Ça, c'est Uranus. C'est le plan du programme de ce qu'on appelle la compensation, le système de compensation de ce monde, ce qu'on appelle le karma, un mot horrible. Et ensuite, nous avons le cercle plus grand qui est le nouveau Neptune, qui est le Neptune mérité pour avoir passé par le chemin de croix du carré d'Uranus. Voilà comment se lit dans le thème la 11e à la 12e maison, dans leur sens archétypique, le Verseau Uranus, Neptune pour le poisson. Donc, en principe, votre 11e maison vit cela. Dans une certaine mesure, elle ne vit que cela, si petite qu'en soit la mesure. Comme votre 12e maison ne vit que cela, si petite qu'en soit la mesure. Si infortuné ou si peu évolué que soit le thème, cette 11e et 12e maison ne peut pas vivre autre chose que le principe du Verseau et le principe du poisson. Ils sont sous la juridiction générale Uranus, Neptune. Et voilà pourquoi, dès que nous sortons du Capricorne, nous entrons dans le monde maintenant de l'être collectif. Et nous sommes définitivement sortis de l'être individuel qu'on a eu tant de peine à forger, à découvrir, à mettre au point entre la première maison, la quatrième, la septième et la dixième. Nos maisons pour mettre au point un bonhomme. Et ensuite, deux maisons pour l'amener directement à la plénitude de l'homme et ensuite à la plénitude de Dieu. C'est le monde de l'inconscient collectif dans la psychologie jungienne. 11e, 12e maison. Mais alors les profondeurs les plus grandes, c'est naturellement les poissons. Parce que ça, c'est le monde de l'âme. Et quand on parle du monde de l'âme, c'est parce qu'on parle de ce qui nous lie, nous le moi, nous le soi, à notre Dieu. Le scorpion, c'est aussi un signe d'eau. Mais dans le scorpion, on peut prendre l'image de la commode. Le scorpion, ce sont les tiroirs d'une commode. Le scorpion, il aime voir ce qui est dans les tiroirs, en dedans d'une commode. Ce qui est sur la table ne l'intéresse pas. Mais le poisson, c'est ce qui est dessous toute la commode et porte toute la commode et tous les tiroirs. Dans le scorpion, c'est aussi un signe de l'inconscient collectif et individuel. C'est le signe de l'exaltation d'Uranus, d'accord? Mais dans ce signe, les énergies en jeu sont des énergies humaines qui sont étroitement liées au développement de la balance. Nous sommes là, l'homme face à l'homme, et l'homme mauvais face à l'homme mauvais, souvent. Et l'homme bon face parfois à l'homme mauvais. C'est la qualité de la 8e maison du scorpion. D'où les invasions psychiques, par exemple. Parce que nous sommes dans un monde qui est partagé et qui est là sur le point subtil de la balance. Mais non pas dans la 12e. Dans la 12e, c'est « puis-je avoir accès par mon dos, par ma vie intérieure, par une retraite au fond de moi-même, puis-je entendre la voix ?» La voix, une voix qui n'est plus une voix simplement humaine, qui n'est plus une voix qui participe encore directement à la bataille des passions du scorpion. Non, c'est une voix prise en plus grande perspective. C'est la voix d'une compassion, une voix qui comprend tout et par conséquent pardonne tout. C'est la voix de Dieu pour l'homme. Alors c'est l'autel dans la cathédrale. Et quand vous entrez dans la cathédrale, vous espérez que la porte va s'ouvrir et qu'on ne la fermera pas à votre nez. Et que vous ne serez pas à rester sur le parvis et dans la rue. Vous savez que depuis très longtemps, ça a été une tradition que tous les coupables avaient le droit d'asile tant qu'ils étaient à l'intérieur d'une église. Bien, c'est ça, la 12e maison, c'est le droit d'asile. Lorsqu'elle est normale, ou tant soit peu normale. Et les afflictions de la 12e maison sont, sur le plan psychologique, les afflictions qui, justement,
vous interdisent l'entrée au sein des saints. Et c'est qui vous l'interdisent et qui par conséquent vous donne le sentiment d'être un orphelin sans Dieu, sans réel père, sans réelle mère dans cet univers. De dépendre uniquement de ce petit père, de ce petit père et de cette petite mère fragile comme vous de cette terre. Et voilà pourquoi Pluton dans la 12e maison est mauvais, dans ce sens spécifique surtout, qu'il nous rend difficile cet accès au monde de Dieu. Et il nous barre la route de ce monde en 12e maison. Il nous ferme la porte de la cathédrale. Il fait tellement de bruit quelquefois qu'on n'entend pas le silence qui est la parole de Dieu. Voilà. C'est là, j'ai déjà dit, et je le crois encore, qu'en général, Pluton dans la 12e maison est moins nocif, parce qu'il est beaucoup plus introverti que dans les autres. Il est moins nocif, certainement, pour les autres personnes. Il est nocif pour vous-même. Même profondeur que vous avez dans la douce. C'est le grand cheminement, non pas vers l'homme, mais vers Dieu. La 11e, c'est le cheminement vers l'homme. Il faut connaître l'homme. Il faut être tout l'homme. Avant que la porte de la réelle 12e maison divine s'ouvre à nous. Qui n'aime pas l'homme qu'il voit, ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Parce que la 12e, c'est bien la maison de l'exaltation de Vénus, c'est la maison de la compassion divine. Et maintenant, j'entre dans le pratique. Vous voyez que la 11e maison, ce sont les idéaux sociaux, les idéaux de fraternité. Les grands idéaux, maintenant, ce ne sont pas les petites histoires du scorpion. C'est par exemple la Croix-Rouge internationale. Ça, c'est une chose qui est partie de l'effort masculin, uranien, de la 11e maison. La Croix-Bleue, la Croix-Verte, et toutes ces institutions-là. Mais la résultante de ça, c'est toujours dans la maison qui suit, qui est toujours la seconde de la précédente et par conséquent représente toujours l'élément de sécurité parce que de forme, par conséquent de durée. La durée d'une chose n'est pas dans la maison qui la produit mais dans la suite de la maison. Et alors la 12e maison, c'est la maison des grandes institutions humanitaires. C'est donc la maison de la Croix-Rouge, c'est pourquoi c'est la maison des hôpitaux. C'est pour ça qu'on appellera ça la maison des hôpitaux. Et c'est la maison des monastères, qui sont des sortes d'hôpitaux des âmes. Dans tous les thèmes de contemplatifs, religieux, d'ordre ou non pas d'ordre, vous avez toujours beaucoup de planètes en maison 12. Mais la raison des hôpitaux, c'est que pour avoir un hôpital, il faut d'abord avoir eu la balance, puis le scorpion et le sagittaire, et il a fallu avoir les idéaux du Verseau. Vous êtes fonctionnaire supérieur à la... C'est la 12e maison astrologique. Cette 12e maison... Je crois qu'il faut m'asseoir parce que je ne vois pas très bien mes notes à cette distance, à cette lumière. Cette 12e maison... La 12e maison, nous le savons tous, pensez tous à votre 12e, pour commencer, ceux d'entre vous qui ont votre thème. Pensez à votre 12e maison, et si vous me dites, mais je n'ai pas de planète là, alors à quoi ça me sert d'y penser? Bien, dites-vous bien que le maître de 12, ça suffit, qu'il est celui qui téléphone là. C'est ça? Et alors, il s'agit de savoir dans quelle autre maison et dans quel signe et dans quels aspects il se trouve dans votre thème pour savoir exactement la signification de votre 12e maison. Bien entendu, quand on voit dans un thème un groupe de planètes, on appelle un amas de planètes 4, disons, dans la 12e maison, on sait tout de suite que cette personne est pour le moins avec une grande tendance à l'introversion. On sait que la vie sortante, la vie active, la vie débordante et surtout l'affirmation du moi sur les autres, la vie possessive par excellence, n'est pas vraiment ce qui caractérise cette personne. C'est une vie rentrée. C'est une vie dont l'action sortante dépendra beaucoup de ce qui s'est travaillé dans les courants souterrains de cette âme. Car en somme, les planètes en 12 puisent dans les forces, la qualité de la vie intérieure propre à l'individu, et au monde spirituel auquel cet individu est lié par son âme, car nous ne sommes pas liés au monde spirituel par le moi ou par le thème direct, nous sommes liés par notre âme. Et c'est l'âme en nous qui est notre dos. Et notre face, ce sont les planètes d'action directe. Donc, la 12e maison, c'est vraiment une échelle de Jacob qui relie l'âme individuelle, non pas le moi, mais l'âme individuelle à l'âme collective, à l'âme groupe auquel son âme appartient et qui appartient à son âme. Et par la voie hiérarchique de l'âme groupe à l'âme universelle, c'est-à-dire et d'abord à l'âme même de notre terre. Pour comprendre pourquoi la 12e est ce qu'elle est dans nos vies, la tendance de la tradition astrologique littéraire a été de regarder la 12e maison comme une maison d'épreuves, de grosses épreuves, d'épreuves chroniques même. Et certes, la 12e maison peut être ça, et certes, elle doit être ça, puisqu'elle peut être ça. Mais elle n'est pas que ça, et elle est beaucoup plus bonne qu'elle n'est mauvaise. Dans les personnes qui sont évoluées, la 12e maison, surtout lorsqu'elle a un groupe de planètes, indique très nettement le caractère de ce stade d'évolution. Car en somme, c'est la maison de la mysticité. C'est la maison de la contemplation. C'est la maison de la vie intérieure. Intérieur du moi par son âme avec l'âme divine. Les poissons, c'est la 10e maison de la croix mutable. C'est le zénith de la croix mutable, de la croix des mutations de l'espèce. C'est donc la volonté du ciel cette fois-ci, mais alors c'est le ciel de Dieu même. C'est la volonté de Dieu qui est au fond même de la 12e maison, dans les tréfonds, par-delà ces frontières usuelles de la conscience et de l'inconscient individuel de l'individu. Et au-delà de ça, c'est le monde direct du divin. C'est la grande maison de la compassion universelle, de l'amour universel, spontanément universel, puisque c'est la maison dans laquelle Vénus est exaltée, c'est-à-dire qu'elle achève sa course, et que deux est le multiple, plutôt, pas deux maintenant, mais le multiple est devenu l'un. C'est dans la 12e maison que la multiplicité devient, se rallie à l'unité, sous l'obédience et sous la substance du tout lui-même, de l'un suprême. Voilà pourquoi c'est la maison de la mystique, et voilà pourquoi c'est la maison de l'âme, et voilà pourquoi c'est la maison de la vie intérieure. Non pas la vie privée,
Car la vie privée, c'est la quatrième maison. C'est une vie dans laquelle on se parle à soi-même beaucoup, la vie privée. On l'appelle privée parce qu'on ne la raconte pas aux autres. Ou on choisit ses auditeurs. Mais la maison 12, c'est une maison dans laquelle on écoute beaucoup plus qu'on ne parle. Et on écoute quelque chose qui vient d'un autre monde. Lorsque vous êtes dans une cathédrale et que vous êtes saisi par les orgues, ou par les chœurs, ou par la liturgie, lorsque vous êtes dans un grand spectacle de nature et que vous sentez votre petitesse, et en même temps cette bonté universelle qui transcende tout et dans laquelle vous êtes inséré, à ce moment-là, vous êtes dans votre 12e maison et vous ne parlez pas. C'est vraiment votre vie secrète qui s'ouvre à vous. C'est d'ailleurs la maison de Neptune. Et Neptune, c'est la rivière qui sort de la cité de Dieu. C'est cette ligne verticale qui sort du cercle et qui descend à la terre. Oui, la 10e maison de la croix mutable, c'est les poissons. C'est le zénith de ça. Ça a la valeur d'une 10e maison. J'ai fait ça au tableau noir ainsi. Vous avez la 10 ici de la croix mutable. Vous avez les Gémeaux ici, le Sagittaire ici, et au pied de la croix mutable, vous avez la Vierge. J'ai discuté ça lorsque j'ai parlé de la 6e maison. Je n'y reviens pas autrement maintenant. Et alors, ici, nous avons la 10e maison de la croix fixe, qui est donc Uranus, 10, Verseau, Vénus, Taureau et Mars, Scorpion. Alors, ceci, ça représente naturellement l'ascendant, la 7e, et la 4e, c'est notre petit soleil. Notre petit soleil, dans notre thème, c'est le pied de la croix d'Uranus. Donc, Uranus est maître de sa 10e. Et alors, nous avons les signes fixes, là, les signes mutables, et dans les signes cardinaux, que vous connaissez tous, nous voyons que l'individu s'insère dans le monde par la cardinale. Puis, en s'insérant dans le monde, dans la fixe, il se trouve, il se découvre, il se trouve, il arrive à se parler à lui-même. Et voilà pourquoi les signes fixes ont ce caractère de fixité, parce qu'après tout, il faut toujours passer par soi-même, en allant et en revenant. On sort de soi, mais on rentre en soi. On rentre en soi et on va en profondeur de soi. On revient des profondeurs de soi à soi, puis on ressort de soi hors de soi. Mais toujours, le pivot, l'axe central, c'est la croix fixe. Et la mutable, alors, c'est la croix des mutations. C'est qu'on a passé... Alors, cette fois-ci, on a trouvé l'homme dans la croix fixe. L'homme dans les hommes. On s'est inséré par la cardinale dans le monde. On a trouvé soi et l'homme, donc. L'identité fondamentale de toute l'espèce humaine. Et alors, finalement, dans la croix mutable, on trouve Dieu. C'est-à-dire le rapport de l'homme à Dieu et de Dieu à l'homme, puis de la fixe à la cardinale, le rapport de l'homme aux hommes. C'est donc la descente de la croix, c'est-à-dire le passage de l'unité à la multiplicité. Et le retour de la multiplicité à l'unité. De sorte que le bélier, la première maison, représente un redépart d'un cycle d'incarnation, un cycle d'expérience, bâti sur la qualité du cycle précédent, dont le point culminant est la 12e maison du thème. Il y a tellement de choses à dire sur toute cette structure des maisons que j'en passe. Et j'en passe faute de temps. Il faut quand même que je reste, que je finisse sur quelque chose de très pratique et de très immédiatement utile. Vous avez tous une 12e maison et vous cherchez toujours à la mieux comprendre. Et peut-être vous ne la comprenez pas du tout. Alors si ce soir je puis arriver à vous aider à y comprendre davantage, ce sera l'essentiel. Mais il me faut bien, pour la bonne méthode, que je vous donne quelques idées sur la signification réelle, la signification de la douzième maison, sa signification archétypique, sa signification prototypique, sa signification de la théorie même, de la loi du zodiaque, la loi de la progression de la vie. Alors, j'ai fait ici ce dessin qui vous intrigue beaucoup. Et ceux d'entre vous qui ont suivi les conférences que j'ai données depuis une année à Paris n'auront pas de peine à suivre la présentation de ce fameux carré. Pour les autres, ce sera ou du charabia ou une révélation. Soit l'un, soit l'autre. Et si c'est une révélation, ça prendra un certain temps pour que vous vous y adaptiez, parce qu'il m'a fallu 10 ans pour trouver ça. Alors, je vous le donne de nouveau ce soir, comme je le comprends. Vous avez ce grand carré. Vous remarquez, cette pointe est au centre de la base du carré. J'ai marqué le signe de Pluton, P, ici dessous, à cette pointe. Et là, il y a un tout petit cercle. Il n'est qu'un point géométrique. Puis nous avons ce triangle équilatéral, ou presque non, il n'est pas exactement. Nous avons ce triangle qui monte là-haut, et là-haut, vous voyez que vous avez une croix dans le cercle, c'est-à-dire, c'est votre thème. Ceci, mes chers amis, dans cette présentation, c'est votre thème dans le tout qui est Neptune. Car Neptune, c'est un tout, et dont vous êtes une partie. C'est comme ça qu'il faut comprendre le rapport de Neptune dans votre thème, avec les planètes de votre thème. Car si les planètes de votre thème vous lient beaucoup plus organiquement aux choses de ce monde, Neptune vous lie aux choses de l'autre monde, du monde qui est celui de la rivière qui vient de la cité de Dieu et qui anime toutes les choses de ce monde en nous-mêmes, qui anime toutes nos petites planètes, par quoi nous entrons dans l'incarnation tous les jours à l'aurore, où tous les jours nous recommençons une nouvelle première maison et où nous attaquons le monde. Alors, votre thème, c'est la partie d'un tout. Vous êtes, vous, individuellement, la partie d'un tout. Et quand vous parlez de Dieu, quand l'instinct religieux dans l'homme lui fait dire qu'il y a un Dieu, c'est la reconnaissance qu'il est lui-même qu'une partie de quelque chose de beaucoup plus grand que lui, qui est le tout dont il était la partie. Et d'autres êtres font partie de ce tout. Voilà pourquoi nous avons la raison d'être de la balance et du scorpion. Ceux qui ont suivi ces deux conférences vont suivre ça admirablement bien. Alors, voici vous, dans le Neptune, vous comprenez, le Neptune suprême, l'unité totale. Le Neptune, alors, lui, exalté dans le Sagittaire. Il a fini sa tâche. Le retour dans le sein de Dieu est accompli. Puis, ici, vous avez un autre Neptune, Neptune avec votre thème, puis ici un autre Neptune plus petit avec votre thème, et ici vous n'avez que le commencement de votre thème, le départ de votre thème. Ceci c'est une sorte de genèse de votre thème. Du moment que votre thème humain a commencé en tant qu'être humain, vous êtes sorti du règne animal qui est représenté ici par ces flèches qui font pression sur ces côtés du triangle. Alors ce règne-là, c'est le règne animal, c'est le règne inférieur au vôtre, c'est en somme le règne qui couvrait tout ce carré, toute cette étendue, tout cet espace, pardon, ou enfin tout ce domaine. Et alors il y a la flèche de la parole de Dieu qui descend avec toute cette flèche ici et qui va s'insérer dans ce domaine. Et là, le travail... Et il se fait une conversion de ceci en ceci, car plus vous montez, quand vous en êtes que là, vous avez surtout ceci et ça, et vous n'avez qu'un tout petit bout du centre de ceci. C'est le domaine du monde humain et du monde transhumain, et du monde spirituel. Mais à mesure que vous êtes monté, quand vous êtes arrivé là, vous êtes dans ce Neptune, et vous faites partie de ce tout-là, et votre partie de ce tout-là,
honore ce tout et ce tout vous honore. Dites-moi quel est votre Neptune et je vous dirai qui vous êtes. Ou dites-moi qui vous êtes et je vous dirai qui est votre Neptune. Alors là, vous avez un Neptune plus grand, vous êtes déjà là, et par conséquent, ce qui reste en vous du monde à proprement parler animal n'est que ceci. Alors que le monde humain et transhumain, c'est déjà tout ça. Et c'est ainsi que graduellement, nous convertissons un domaine en un autre. Et la raison de l'incarnation n'est pas autre chose que le sang versé de l'agneau, le morcellement du pain, c'est la multiplication, la descente, ce n'est pas autre chose que le besoin qu'a un univers d'être converti par un autre. Un ordre qui est celui-ci converti par un ordre plus grand. Tout ça, c'est le cadre de la mutation perpétuelle de tout le monde manifesté. Quand vous êtes incarné, vous êtes reparti dans un cadre pareil, où il s'agit maintenant de convertir toute l'énergie qui est là, qui est analogiquement liée à vous, mais dont vous disposez des moyens de l'assimiler, par conséquent, de la transformer. Ce grand mot de la théologie chrétienne, la transsubstantiation. Voilà. Nous sommes en train de vivre, chacun de nous, la transsubstantiation des valeurs. Et tant qu'il faudra transsubstantier un certain monde, un certain domaine, nous reviendrons le faire comme soldats, comme émissaires, comme envoyés du monde supérieur. Car si nous sommes ici dans l'incarnation corporelle, c'est que nous sommes ici trempant dans quelque chose pour que ce quelque chose, pas seulement nous, mais que ce quelque chose lui-même soit transformé par notre présence, puisque nous sommes le dernier terme en quelque sorte d'une tuyauterie, passez-moi le mot, d'une tuyauterie spirituelle dont le dernier aboutissant, le dernier jet arrosant la terre, arrosant ce qui l'entoure, c'est nous-mêmes. C'est encore là un des sens de la bouche, et un des sens de la parole, et un des sens du verbe. Alors vous voyez que vous avez ici, voyez Neptune, voyez le poisson, le signe du poisson, n'est-ce pas? Le signe du poisson, je crois que vous le verrez tous ici, je vais le faire là. Le signe du poisson, c'est un petit cercle, et puis c'est un grand cercle. Et ils sont, mais l'un est plus petit que l'autre. Normalement, nous les faisons égaux et ils sont liés. Mais ils ne sont qu'un schéma pour rappeler ce qu'est véritablement l'opération, le drame en jeu. L'enjeu du signe, l'enjeu de la maison. En réalité, ce cercle est plus petit que l'autre et il s'agit de les accorder. Autrement dit, c'est un grand tout, c'est un petit tout. Il s'agit que le petit et le grand soient unis et que ceci devienne cela. Et alors, il y a la descente du grand et la montée du petit. Alors, pour passer d'un tout qui est là et qui est représenté par un cercle dans lequel se trouvera le carré, car un cercle ne peut être fait que à travers un carré. Alors, quand le cercle est entoure le carré, nous avons le principe vénusien, nous avons le principe neptunien, c'est le tout. C'est toujours un tout, un cercle. Mais alors, pour passer à un cercle plus grand, il faut de nouveau se soumettre à la loi de la croix, c'est-à-dire au carré, et il faut que ce cercle passe par un carré plus grand pour finir par entourer ce carré plus grand. Par conséquent, le carré sera là et le cercle sera beaucoup plus grand. Alors nous avons ici Neptune, Uranus, Neptune. Neptune, Uranus, Neptune, Uranus, Neptune. Car dans votre thème, votre Uranus est votre ancien Neptune, et votre Neptune, c'est votre futur Uranus. Et le travail d'Uranus, c'est un travail fixe et déterminé. C'est le programme déterminé de la vie. Il est dans un cadre, il porte le chemin de croix qui va le mener lui-même à votre Neptune. Voilà pourquoi dans les thèmes des gens qui sont nés autour de 1900,
Lorsque Uranus est en opposition, c'est un peu avant. Lorsque Uranus est en opposition à Neptune, dans les thèmes, vous avez ce grand moment où lorsqu'Uranus vient à Neptune, vous avez comme une sorte de préavis ou de prémisse de ce que peut être l'Uranus devenant de Neptune. C'est un grand tournant dans les profondeurs de l'âme de l'individu. Et il s'agit de bien comprendre que le symbole d'Uranus, n'est-ce pas, c'est la croix et le cercle.
Oui.
Mais ça, c'est un schéma primitif. La réalité de ça, c'est une petite croix, cercle ici, c'est un grand cercle là, c'est le carré, ceci, cette croix qui est là, c'est le carré sur le cercle, et le voilà ce carré, et le cercle est à l'intérieur. Car Mars, c'est la même chose, Mars, c'est le carré et le cercle à l'intérieur. Et Vénus, c'est le carré, mais le cercle à l'extérieur.
Et alors, Uranus comme ça, le véritable Uranus, le voilà.
C'est un carré qui est ici, Neptune a son carré à l'intérieur du cercle. Ici, le cercle est à l'intérieur du carré, ça c'est Uranus. C'est le plan du programme de ce qu'on appelle la compensation, le système de compensation de ce monde, qu'on appelle le karma, un mot horrible. Et ensuite, nous avons le cercle plus grand qui est le nouveau Neptune, qui est le Neptune mérité pour avoir passé par le chemin de croix du carré d'Uranus. Voilà comment se lit dans le thème la 11e et la 12e maison, dans leur sens archétypique, le verso Uranus, Neptune pour le poisson. Donc, en principe, votre 11e maison vit cela, dans une certaine mesure, et elle ne vit que cela, si petite qu'en soit la mesure. Comme votre 12e maison ne vit que cela, si petite qu'en soit la mesure. Si infortuné ou si peu évolué que soit le thème, cette 11e et 12e maison ne peut pas vivre autre chose que le principe du verso et le principe du poisson. Ils sont sous la juridiction générale Uranus-Neptune. Et voilà pourquoi, dès que nous sortons du Capricorne, nous entrons dans le monde maintenant de l'être collectif. Et nous sommes définitivement sortis de l'être individuel qu'on a eu tant de peine à forger, à découvrir, à mettre au point entre la première maison, la quatrième, la septième et la dixième. Nos maisons pour mettre au point un bonhomme, et ensuite deux maisons pour l'amener directement à la plénitude de l'homme, et ensuite à la plénitude de Dieu. C'est le monde de l'inconscient collectif dans la psychologie jungienne, 11e, 12e maison. Mais alors les profondeurs les plus grandes, c'est naturellement les poissons. Parce que ça, c'est le monde de l'âme. Et quand on parle du monde de l'âme, c'est parce qu'on parle de ce qui nous lie, nous le moi, nous le soi, à notre Dieu. Le scorpion, c'est aussi un signe d'eau. Mais dans le scorpion, on peut prendre l'image de la commode. Le scorpion, ce sont les tiroirs d'une commode. Le scorpion, il aime voir ce qui est dans les tiroirs, en dedans d'une commode. Ce qui est sur la table ne l'intéresse pas. Mais le poisson, c'est ce qui est dessous toute la commode et pas toute la commode et tous les tiroirs. Alors le scorpion, c'est aussi un signe de l'inconscient collectif et individuel. C'est le signe de l'exaltation d'Uranus, d'accord? Mais dans ce signe, les énergies en jeu sont des énergies humaines qui sont étroitement liées au développement de la balance. Nous sommes là, l'homme face à l'homme, et l'homme mauvais face à l'homme mauvais, souvent. Et l'homme bon face parfois à l'homme mauvais. C'est la qualité de la 8e maison du scorpion. D'où les invasions psychiques, par exemple. Parce que nous sommes dans un monde qui est partagé et qui est là sur le point subtil de la balance. Mais non pas dans la 12e. Dans la 12e, c'est « puis-je avoir accès par mon dos, par ma vie intérieure, par une retraite au fond de moi-même, puis-je entendre la voix, une voix qui n'est plus une voix simplement humaine, qui n'est plus une voix qui participe encore directement à la bataille des passions du scorpion. Non, c'est une voix prise en plus grande perspective. C'est la voix d'une compassion, une voix qui comprend tout et par conséquent pardonne tout. C'est la voix de Dieu pour l'homme. Alors, c'est l'autel dans la cathédrale. Et quand vous entrez dans la cathédrale, vous espérez que la porte va s'ouvrir et qu'on ne la fermera pas à votre nez. Et que vous ne serez pas à rester sur le parvis et dans la rue. Vous savez que depuis très longtemps, ça a été une tradition que tous les coupables avaient le droit d'asile tant qu'ils étaient à l'intérieur d'une église. Bien, c'est ça, la deuxième maison, c'est le droit d'asile. Lorsqu'elle est normale, ou tant soit peu normale, et les afflictions de la deuxième maison sont, sur le plan psychologique, des afflictions qui, justement, vous interdisent l'entrée au sein des saints. Et c'est qui vous l'interdisent et qui, par conséquent, vous donne le sentiment d'être un orphelin sans Dieu, sans réel père, sans réelle mère dans cet univers. De dépendre uniquement de ce petit père, de ce petit père, de cette petite mère fragile comme vous de cette terre. Et voilà pourquoi Pluton dans la douzième maison est mauvais dans ce sens spécifique surtout, qu'il vous rend difficile cet accès au monde de Dieu. Et il nous barre la route de ce monde en douzième maison. Il nous ferme la porte de la cathédrale. Et il fait tellement de bruit quelquefois qu'on n'entend pas le silence qui est la parole de Dieu. Voilà. C'est là, j'ai déjà dit, et je le crois encore, qu'en général, Pluton dans la douzième maison est moins nocif, parce qu'il est beaucoup plus introverti que dans les autres. Il est moins nocif, certainement, pour les autres personnes. Il est nocif pour vous-même. Même profondeur que vous avez dans la douce. C'est le grand cheminement, non pas vers l'homme, mais vers Dieu. La onzième, c'est le cheminement vers l'homme. Il faut connaître l'homme. Il faut être tout l'homme. Avant que la porte de la réelle douzième maison divine s'ouvre à nous. Qui n'aime pas l'homme qu'il voit, ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Parce que la douzième, c'est bien la maison de l'exaltation de Vénus, c'est la maison de la compassion divine. Et maintenant, j'entre dans le pratique. Vous voyez que la onzième maison, ce sont les idéaux sociaux, les idéaux de fraternité. Les grands idéaux, maintenant, ce ne sont pas les petites histoires du scorpion. C'est par exemple la Croix-Rouge internationale. Ça, c'est une chose qui est partie de l'effort masculin, uranien, de la onzième maison. La Croix bleue, la Croix verte, et toutes ces institutions-là. Mais la résultante de ça, c'est toujours dans la maison qui suit, qui est toujours la seconde de la précédente et par conséquent représente toujours l'élément de sécurité parce que de forme, par conséquent de durée. La durée d'une chose n'est pas dans la maison qui l'a produit, mais dans la suite de la maison. Et alors la douzième maison, c'est la maison des grandes institutions humanitaires. C'est donc la maison de la Croix-Rouge, c'est pourquoi c'est la maison des hôpitaux. C'est pour ça qu'on appellera ça la maison des hôpitaux. Et c'est la maison des monastères, qui sont des sortes d'hôpitaux des âmes. Dans tous les thèmes de contemplatifs, religieux, d'ordre ou non pas d'ordre, vous avez toujours beaucoup de planètes en maison douce.